Lazare vient dehors. C'est ce qu'on aurait pu dire aux catéchumènes. Hein. Venez, venez, sortez de vos tombeaux pour trouver la vie. On s'amusait à ça. Quand il y a 20 ans encore, on pouvait se permettre de visiter la tombe traditionnelle de Lazare à Béthanie, en Terre Sainte, avec les pèlerins. Donc on descendait comme... Depuis longtemps, il y a des guerres autour de Jérusalem. Et donc, il y a des pierres de maisons qui tombent. Et puis après, on reconstruit dessus d'autres maisons ou d'autres puits. Et donc, on creuse toujours à travers les strates civilisationnelles des effondrements des maisons. Il y en a quelquefois 10, 16 à Tel Megiddo, Armageddon, 16 couches d'effondrements civilisationnels. Hein. Et puis on creuse et on va vers la source, on va vers les tombes, on va, voilà, hein, on passe à travers. Donc aujourd'hui, quand on voit la tombe, pour la voir, cette tombe traditionnelle de Lazare, il faut passer à travers plusieurs couches. Donc ça fait beaucoup d'escaliers à descendre et à remonter. Mais quand les pèlerins descendent par groupe de 4, hein, eh bien, on s'amuse d'en haut à les appeler, et quelquefois c'est le curé qui s'amuse à ça, à appeler chacun, Lazare, sors de ton tombeau. Et le pèlerin monte, et puis il est tout heureux d'arriver à la lumière, et les uns après les autres. Voilà comment on peut s'amuser en Terre Sainte. Et on y allait, et c'était beau, parce que on pouvait non seulement voir la tombe de Lazare, mais c'était juste à côté de la maison traditionnelle de Marthe, Marie, Lazare, la maison de l'amitié, avec un beau jardin. Donc on s'y arrête, on fait une pause avec les pèlerins et on se parle, et c'est beau. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Je me rappelle encore que j'avais pu prêcher une retraite à des sœurs, aux sœurs, à l'Union des religieuses de Terre Sainte, qui s'étaient réunis là dans la maison des sœurs de la Nigritia, de la Consolata, qui se trouve juste à côté de la tombe de Lazare. C'était beau, parce que le matin, je pouvais aller à la tombe, je me réveillais, je me réanimais, et puis je pouvais réanimer les sœurs. C'était beau, c'était sur le même terrain. Et aujourd'hui, quand on y va et on n'y va plus, pratiquement avec les pèlerins, parce que c'est impossible. Le mur de séparation entre la Palestine et Israël passe sur le terrain des sœurs. Donc, on a un grand mur. Pour arriver à cette tombe, il faut faire 2 heures de bus, parce qu'il y a des virages, tout ça, pour contourner le mur, passer par le checkpoint et arriver à la tombe. Donc, ça ne se fait pratiquement plus. On peut y aller individuellement, mais il faut une journée, hein. On a une séparation par la pierre. Et quand je vois ça aujourd'hui, à Al-Aizariye, c'est un village arabe, eh bien, c'est le village de Lazare, Dieu aide. Je me dis que ces pierres semblent, c'est un vrai désespoir, quoi. Un mur co-construit, il faut le dire, par l'histoire, hein. Un mur. Et bien, au temps de Jésus, quand j'y retourne un petit peu, voilà, je me dis, ah, il y a le grand mur maintenant. Mais au temps de Jésus, c'était une pierre ronde, circulaire, qui bloquait l'accès à une grotte qui était devenue le sépulcre de Lazare. Et c'était, pour ceux qui vivaient cela, pour Marie, pour Marthe, pour les amis de Lazare, mais c'était cause d'une grande tristesse, d'un vrai désespoir. Lazare, ton ami, est mort, hein, Jésus. Et pourquoi est-ce que tu t'es pas bougé? Parce qu'avec le téléphone arabe, non, en ce temps-là, c'était le téléphone samaritain, on t'a fait savoir qu'il était mal, qu'il était malade. Et si tu avais été là, dit Marthe à Jésus, il ne serait pas mort, on le sait. c'est tellement fort d'être avec toi, Jésus. Il ne serait pas mort. Tu aurais trouvé un moyen. Il aurait été guéri. Pourquoi est-ce que tu as attendu ? Et Jésus dit, mais j'ai attendu pour que vous soyez témoins de cela, qu'il est vraiment mort. Et que face à la mort, face aux pierres du désespoir, il y a toujours un secret espoir. C'est pour cela que je ne me suis pas bougé. Alors maintenant, Jésus dit à Marthe, à Marie, aux amis qui pleurent, eh bien maintenant, allons ensemble vers la tombe de Lazare. Mais vous allez quand même enlever la pierre. Et alors Marthe lui dit, mais enfin, raisonne Jésus, là il est mort, il y a une pierre devant, donc il y a plus d'espoir. Et puis, putréfaction, tu comprends ? On ne va quand même pas ouvrir on ne va pas déplacer la pierre. Et Jésus dit, mais enfin bon, Marie, Marthe, on se connaît, hein. Déplacer la pierre, oh, si tu le dis. Ils sont désespérés et ils ne voient pas pourquoi il faudrait déplacer une pierre. C'est souvent une des situations de nos vies où il y a des pierres du désespoir, hein, des pierres qui nous découragent, des pierres qui semblent bloquer l'accès à un horizon. Ça nous arrive. Cette semaine, mes frères et sœurs, ils m'appellent et me disent « Maman a été envoyée d'urgence à 20h30 à l'hôpital. C'est grave, le médecin a décidé, elle est partie aux urgences là, à Bel Air de Thionville. Oula, c'est l'un des hôpitaux les moins fournis en personnel de la santé. On attend des heures aux urgences. Et de fait, elle a dû attendre jusqu'à 5h30 du matin pour faire quelques prises de sang. Mais eux, mes frères et sœurs, semblaient paniqués, atterrés, d'autant que maman n'avait pas son téléphone, donc on ne savait pas ce qui se passait. Mais maman est partie sur la civière des pompiers en les encourageant, en leur disant « Je ne vois pas pourquoi vous découragez, quoi. » Ma sœur me disait « Une battante, hein. » Bon, tant mieux. Voilà, elle arrive aux urgences, elle ne va pas dormir toute la nuit. Et il y a un malade là, qui est tombé de sa civière, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Hein. Et beaucoup de monde, il y avait deux vigiles, parce qu'il faut cela maintenant. Et puis, mais le personnel soignant ne faisait pas face à tout ce qui arrivait. Et ce monsieur, qui était nu, et il est tombé de sa civière et personne ne s'occupait de lui. Et maman s'est débattue pour appeler, elle n'a pas de souffle, mais pour crier et pour qu'on s'occupe de ce monsieur. Le lendemain, à 8h du matin, j'appelle l'infirmerie, et l'infirmière très gentille, une Algérienne très gentille, me passe tout de suite maman. Et maman me dit, ne t'inquiète pas, tout va bien, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, je ne vois pas où est le problème. Ils ont fait des examens, voilà. Elle m'a réanimé. Elle ne voyait pas les pierres que mes frères et sœurs voyaient. Pour elle, il n'y avait pas de pierre. Donc il y a des situations comme ça où on se décourage dans notre vie. Il y a ces situations. Mais Jésus entraîne Marthe, Marie et tous les amis qui pleurent. Il leur dit, allez, debout, on va voir la tombe et puis vous déplacez quand même la pierre au préalable. Oh Jésus, c'est pas possible. Et le Christ tout simplement se met face au Père et il dit, il ne s'est encore rien passé, hein. Il dit, je sais que tu m'as exaucé. C'est de sa relation au Père, de confiance, hein, que tout va changer, que tout va bouger, que tout reprend espoir, que tout se réanime et que Lazare va sortir de son tombeau. Elles sont belles ces fleurs, hein, parce que là c'est un peu palichon, hein, la réanimation. Mais là c'est la résurrection. Et Jésus dit, c'est parce que je suis la résurrection et la vie qu'à mon contact, vous vous réanimez, et que même les morts se réaniment. À son contact, hein, et c'est ce mystère que vous allez vivre par le baptême, la confirmation, c'est à son contact, dans la relation avec lui, que tout reprend vie, qu'a lieu un printemps de notre vie, que même les déserts reprennent vie parce que l'eau du baptême coule jusque dans les déserts et la mer morte reprend vie et toute la végétation autour. C'est ça le mystère chrétien, c'est qu'en contact avec lui, tout se réanime, tout reprend vie, parce qu'il nous entraîne, il nous plonge dans sa relation au Père. Et c'est une relation vivante, c'est une relation éternelle. C'est pour cela que tout reprend vie. Alors à nous, peut-être, grâce à vous les catéchumènes, à Serena, qui se prépare au baptême, là, très bientôt, grâce à vous les catéchumènes, nous revivons pendant cette célébration notre plongée dans la relation du Fils au Père. C'est une relation vive, vivante, qui fait tout revivre, qui réanime tout. Notre mission de chrétien, c'est de réanimer. Oh, pas comme le font certaines de nos sœurs, là. Hein. Si, aussi, elles réaniment en tant que médecins, dans les services de la santé, on réanime. Mais notre mission, à cause du Christ, c'est de réanimer. Grâce à lui, de redonner vie partout où on passe, là où il y a du désespoir, là où il y a du découragement, de raviver, là où il y a la guerre, d'apporter des paroles de paix, là où il y a de la maldisance, d'apporter des paroles de construction. Vous voyez, pauvre Thomas, lui aussi, il en est mal. Et quoi que fasse Jésus, c'est jamais bien. S'il n'était pas parti de la Samarie pour aller voir Lazare, il l'aurait critiqué. Et là, il part de Samarie pour aller voir Lazare, il dit « on va mourir avec lui ». Il y a comme ça des chrétiens qui sont mécontents de tout, toujours, quoi qu'il arrive, quoi que l'on fasse, quelques gestes que l'on pose, c'est jamais bien. Ben, le vrai chrétien, le baptisé, c'est celui qui vit dans la dynamique de Jésus et qui se dit « notre rôle, c'est de réanimer ». Pas de détruire les gens, de leur enlever le peu de vie qui reste. Il y a des chrétiens comme ça, hein, qui passent leur temps à désanimer. C'est de réanimer, c'est de redonner la vie, de passer de ce blanc un peu palichon à la résurrection. C'est ça la mission des chrétiens. Eh ben, on a de quoi faire, hein, même si on était peu nombreux, mais il y a un magnifique travail, une magnifique mission qui nous attend pour le bien des gens de notre temps.